Vous écoutez Beurre FM, il est 13h03. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous prêter attention et puis surtout d'être fidèles au programme que nous vous proposons, notamment à l'occasion des différentes élections, qu'elles soient présidentielles, législatives, municipales ou même cantonales. Aujourd'hui, ce sont les élections régionales. Il y a une nouvelle donne. La Haute-Normandie et la Basse-Normandie fusionnent pour devenir la Normandie, la grande région pour la Normandie. Et avec le climat actuel, il est très difficile, effectivement, à la fois de rencontrer les candidats, mais également voir dans quelles conditions ils font campagne. Notre rôle ici à Beurre FM, c'est d'inviter quelques-uns de ces candidats, ceux qui ont voulu répondre à notre invitation. Parmi eux, il y a Pascal Lemanac de Lutte Ouvrière, tête de liste justement pour cette campagne concernant les régionales pour la Normandie. Pascal Lemanac, que nous allons saluer dès maintenant. Bonjour, bienvenue sur Beurre FM.
Bonjour à vous et bien sûr bonjour à tous les auditeurs de Beurre FM.
Pascal Lemanac, un premier mot. La situation en France, après les attentats du 13 novembre, fait que cette élection ô combien importante pour l'avenir des citoyens, notamment de la Normandie, est passée au second plan.
Oui, ben, je profite de votre invitation pour déjà exprimer toute mon émotion par rapport aux attentats du vendredi 13 novembre à Paris et à Saint-Denis, et toute ma solidarité par rapport justement aux familles des victimes. Ces attentats sont des attentats ignobles. On a tous été touchés, frappés même par ces événements. Et évidemment, la campagne a changé de ton avec cette situation et aussi avec ce que le gouvernement a mis en place avec l'unité nationale. Eh bien, nous n'avons pas été justement dans cette unité nationale. Nous pensons que les Hollande, les Sarkozy, les Le Pen qui mettent en place cette unité nationale, eh bien, nous sommes pas d'accord parce que ils veulent soi-disant lutter contre le terrorisme. Mais je tiens à dire en quelques mots quand même que la France a des responsabilités extrêmement importante dans la situation qui se passe au Moyen-Orient et au Proche-Orient. Daesh n'est pas venu de nulle part. Vous savez bien, tout le monde est au courant que Daesh a été financé, armé en partie par l'Arabie Saoudite et le Qatar.
La continuité d'Al-Qaïda en quelque sorte.
Oui. Financé par l'Arabie Saoudite et par le Qatar, la Turquie a ouvert son sol pour que Daesh puisse même s'entraîner sur son propre sol. Et ça, évidemment, sous le couvert de l'impérialisme américain, évidemment, et français. Daesh, comme vous le dites, c'est un peu comme Al-Qaïda. Ils se sont développés après le chaos qui a été provoqué par la guerre en Irak, où les États-Unis et l'Angleterre sont intervenus massivement. Et sur ce chaos, Daesh s'est construit. Et il a profité de la situation, dans un deuxième temps, en Syrie, où il y avait justement des cliques militaires qui se battaient contre le pouvoir en place, Bachar al-Assad, et Daesh a recruté sur ce terrain, sur ce chaos. Mais l'impérialisme américain, anglais, français a une part de responsabilité extrêmement importante. Et vous savez, vous-même, que pendant très longtemps, le soutien de Bachar al-Assad, aujourd'hui même toujours encore, aujourd'hui ce sera même peut-être demain l'interlocuteur privilégié, Bachar al-Assad qui est responsable quand même de 300 000 meurtres, victimes. Bon, vous voyez, c'est ce système qui crée aussi ce terrorisme. Un système où on voit 64 familles dans le monde, je répète, 64 familles qui ont la même somme, la même fortune, que 3,5 milliards d'habitants sur la planète. Eh bien, c'est ce système capitaliste, nous, qu'on remet en cause.
Alors justement, Pascal Lemanac, votre campagne s'articule sur le monde ouvrier, le monde du salariat. Aujourd'hui, comment se fait-il, c'est un constat, qu'il y a moins d'adhérents dans ces partis dits ouvriers, et que tout le monde aujourd'hui, peut-être pour des besoins sécuritaires, rejoigne le Front National.
Eh bien, je dirais déjà pour le monde ouvrier, quand je parle du monde ouvrier, je parle de l'ensemble des salariés, des chômeurs, des retraités, évidemment, et même des jeunes. C'est vrai que l'on prend des coups perpétuels depuis des dizaines d'années. Le chômage, aujourd'hui, il atteint 6 millions de personnes. On est dans une situation de recul où les licenciements, les suppressions d'emplois sont continuelles dans toutes les entreprises, où les salaires sont bloqués depuis des années, où la précarité, je travaille comme ouvrier à Renault-Cléon, il y a dans mon usine 1200 intérimaires. Il n'y a pas d'embauche. La direction se sert de la précarité pour augmenter continuellement ses bénéfices. Alors dans cette situation qui est très difficile, avec ce chômage de masse, oui, malheureusement, les réactions du monde du travail sont pas très courantes. Ce sont souvent des réactions le dos mur quand il y a des licenciements, mais on n'arrive pas aujourd'hui à faire en sorte, et c'est sous le programme qu'on défend, nous, d'imposer nos revendications, les imposer. C'est nous, les salariés, qui faisons tourner toute la société. Tout ce qui existe dans la société existe parce qu'il y a des gens qui travaillent. Pas parce qu'il y a des actionnaires, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent. Eh bien, on a le pouvoir de changer la situation. C'est difficile en ce moment, c'est vrai. Et c'est vrai que la gauche, la droite, l'extrême droite, tout le monde nous explique que le problème, c'est la sécurité. Le problème, ce sont les migrants qui arrivent aux frontières de l'Europe. C'est eux les responsables de la situation. Eh bien, nous, on dit que non. Il faut absolument faire en sorte que les migrés qui se sauvent de la pauvreté, qui se sauvent de Daesh, qui se sauvent de la Syrie, aient la possibilité de vivre correctement. Et on est dans une société, vous savez, où largement, tout le monde peut vivre correctement.
Oui, c'est comme l'histoire des 42 000 chômeurs qui sont passés, entre parenthèses, à cause des événements. On a l'impression que, ça y est, on oublie la nouvelle misère, mais il faut rester dans le sécuritaire, le tout sécuritaire.
C'est le tout sécuritaire. C'est expliquer que le problème, ça vient de l'étranger. C'est lui. Et donc, oui, le nationalisme. Il faut absolument produire normand maintenant. J'entends produire normand, produire français. Ce n'est pas vrai. On est dans un monde où, quelle que soit notre nationalité, quelle que soit notre religion, pour nous, il y a deux camps. Le camp du patronat des plus riches et de l'autre côté, notre camp, le camp des travailleurs. Et c'est pour ça que dans cette campagne, lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs, c'est une nécessité vitale vu la situation. C'est difficile. Eh bien, il faut se battre pour ses idées. Il ne faut pas laisser au reste des politiciens le fait de expliquer que c'est le nationalisme, c'est le protectionnisme. Eh bien non, nous, on a des revendications dans le monde du travail. Il faut absolument lutter contre le chômage, pour des augmentations de salaire, augmentation d'allocations de chômage, de pensions de retraite. Oui, l'argent existe. Vous savez, je terminerai là-dessus, les 10 premières fortunes de France, début 2014, avaient 140 milliards de fortune. Fin 2014, un an plus tard, ils ont augmenté de 38% leur fortune personnelle qui se monte aujourd'hui à 180 milliards. Eh bien, c'est ce monde, l'argent existe. Eh bien, il faudra que le monde du travail, oui, se mette en colère, se batte pour imposer ses revendications. On le sait bien, ça ne se fera pas par les élections.
Alors, Pascal Lemanac, avant d'arriver à la partie programme régional, je reste un petit peu sur le monde du travail. La France n'est plus un pays industriel quand on regarde ce que représente le secteur secondaire aujourd'hui. Est-ce que justement le fait qu'il y ait moins d'usines, moins de production, donc forcément le tertiaire a tout phagocyté? Et on se retrouve dans des sociétés où le syndicalisme également opère en effectif. Parce que lutte ouvrière, pour moi, c'est aussi comme un syndicat des travailleurs. Donc on peut associer les deux.
Oui, on est un parti politique. Je suis moi-même syndicaliste dans mon usine. Je suis dans un syndicat. Mais à côté de ça, je fais de la politique à lutte ouvrière. Alors, oui, bien sûr que la situation peut-être industrielle a changé. Il y a moins de grandes usines, comme vous le dites. Mais ça ne peut pas dire que le salariat, lui, il disparaît. Vous savez, 83% des gens qui vivent en France sont salariés. Les conditions de travail, elles sont pas meilleures chez quand vous êtes caissière dans une grande surface, quand vous êtes chez dans un fast-food, pour pas ne citer de marque. Vous savez, les situations, elles sont pas mieux. On a l'impression que, y a moins d'usines, donc les situations de travail s'améliorent. Pas du tout. Vous savez, le temps partiel. Je vois le temps partiel des femmes.
Et le fameux travailleur pauvre, aujourd'hui.
Bien sûr, bien sûr. Regardez le nombre d'intérimaires qu'il y a. Bien sûr que le patronat se sert du chômage pour rendre la précarité un peu quasiment la normalité. Il faut, le gouvernement aujourd'hui aide le patronat à coup de subventions à part, ce sont des dizaines et des dizaines de milliards. On en reparlera peut-être un peu plus tard. Mais, ce que je veux dire, c'est que, regardez le gouvernement qui dit, le code du travail est un problème, il faut le remettre en cause pour embaucher. Ce n'est pas vrai. Le code du travail, vous savez, les patrons, ils s'assoient dessus. Aujourd'hui, je vois dans mon entreprise, on prend les salariés, mais c'est la flexibilité qui est imposée. Ce sont les bas salaires. On a perdu, nous, chez Renault, pour vous dire, pour augmenter les bénéfices, on nous a supprimé 21 jours de congé du jour au lendemain. 21 jours de congé. On travaille en plus un mois gratuitement.
Et Renault... Travailler plus, gagner moins.
Et Renault, les 6 premiers mois de l'année, a fait 1,4 milliard de bénéfices. Les 6 premiers mois.
Merci Pascal Lemanec pour cette introduction. Nous marquons une pause. Dans un instant, nous reviendrons sur votre liste et le programme que vous défendez pour la future région, la région de Normandie. Spéciale élection régionale 2015. Je vous rappelle les dates, les 6 et 13 décembre. La nouvelle région, la Normandie, qui inclut les 5 départements, à savoir ceux de la Haute et ceux de la Basse-Normandie. Nous recevons aujourd'hui Pascal Lemanec, tête de liste pour lutte ouvrière sur la région de la Normandie. Pascal Lemanec, on va maintenant parler de programme. La région va connaître un nouveau basculement, puisque ce sera 5 départements pour une seule région. J'ai regardé ma géographie hier soir. La future Normandie aura des frontières avec quasiment toutes les régions. Donc, quelle est aujourd'hui la place de lutte ouvrière dans ce monde des landeurs à la française?
Oui. Alors, vous savez, je rappelle quand même que lorsque le gouvernement a parlé de la mise en place des grandes régions, son premier mot, ça a été de dire « on pourra faire des économies ». Et c'est ça quand même le problème. Ils veulent faire des économies. Comme toujours, on nous raconte qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses au niveau des collectivités territoriales, au niveau des régions, évidemment. Au niveau de l'État, il n'y a plus d'argent, soi-disant.
Enfin, on baisse les dotations gouvernementales au profit des régions pour que les régions augmentent les impôts des citoyens. C'est plutôt ça.
Oui, mais surtout que on nous dit qu'il n'y a plus d'argent. Alors comment se fait-il que les subventions, vous savez, les subventions, les dégrèvements d'impôts pour les grandes entreprises, les pactes de solidarité, les CICE,
les niches fiscales,
le CICE. Prenons le CICE, qui est le dernier impôt un peu mis en place par le gouvernement de gauche. 27 milliards cette année, 33 milliards en 2016, 40 milliards en 2017. Là, il y a de l'argent. Il y a de l'argent pour aider les entreprises, soi-disant pour créer de l'emploi. Et qu'est-ce qu'on voit? On leur file des dizaines et des dizaines de milliards, le chômage, lui, il continue d'augmenter. Et on nous explique après qu'il n'y a plus d'argent, qu'il va falloir faire des économies sur la culture, sur le sport, sur les transports, sur la santé. Il va falloir augmenter les impôts, justement, pour renflouer la sécurité sociale. Il va falloir travailler un an de plus avec la mise en place un travail d'un an de plus pour les complémentaires retraites. Alors là, il n'y a pas d'argent pour ça. Évidemment qu'il n'y a plus d'argent, puisque les dizaines, des centaines de milliards sont donnés à fond perdu au patronat, essentiellement au grand patronat, qui lui, on voit, ah oui, il augmente ses bénéfices. Cet argent-là va directement dans la poche des actionnaires. Tout le monde le sait, c'est un scandale. Eh bien, la gauche, la droite et l'extrême droite, avec le Front National, ils sont d'accord avec cette politique de subvention au patronat. Gattaz, le dirigeant du MEDEF, qu'on lui a annoncé le CICE avec les 40 milliards en 2017, qu'est-ce qu'il a dit? Ça ne suffit pas. Il faudrait 100 milliards. Avec 100 milliards, oui, on commencerait peut-être à baisser le chômage. Mais c'est une escroquerie, cet argent, ils le gardent pour eux.
Mais en disant cela, ils savent très bien que d'ici 3 ou 4 ans, avec le changement de génération, de ceux qui partent à la retraite, il va falloir réembaucher. Donc finalement, le chômage baissera peut-être dans 4-5 ans, mais de façon automatique. C'est une régulation générationnelle.
Réembaucher, vous en êtes sûr? C'est pas ce qu'ils ont dans la tête. Ce qu'ils veulent mettre en place, ce sont des contrats de travail flexibles. Mettre une croix sur le CDI. Faire en sorte que maintenant, vous êtes à la disposition de l'employeur. Vous travaillez quand il y a du travail. Quand il n'y a pas de travail, vous restez à la maison et on ne vous le paye pas. Mais si le samedi, on a besoin de vous, vous repartez au travail. C'est ça qu'ils veulent mettre en place. C'est-à-dire, on le voit dans l'automobile américaine, où les salariés sont vraiment complètement à la merci de l'employeur. L'employeur, il fait ce qu'il veut. Et lorsqu'il parle de réformer le code du travail, soi-disant, il serait trop épais, on sait très bien ce que ça veut dire. Ils veulent faire que le minimum de protection qui existait encore pour les salariés, ça soit arraché page par page. Voilà la situation. Oui, les attaques, quel que soit le résultat des régionales.
Il y a toujours une politique nationale.
Mais bien sûr qu'il y a une politique nationale. Nous faire croire que ce sont des élections régionales, que vous voyez les candidats encore et comme d'habitude, c'est encore des promesses. Mais bien sûr qu'on va améliorer le transport. Mais bien sûr qu'on va faire en sorte qu'il y ait plus de place dans les hôpitaux. Mais bien sûr. Mais ils sont hier en place. Ils n'ont pas fait. Et à chaque fois, c'est oui, on va le faire, mais demain. Ras-le-bol des promesses de ces politiciens, ras-le-bol. Il faut que la population, justement, même là-dessus, qu'on ait un droit de contrôle sur où va l'argent, au niveau de la région, bien sûr, au niveau de l'État, à quoi sert l'argent. Et on verrait la comptabilité de l'État, la comptabilité des régions, la comptabilité des entreprises qui, soi-disant, se portent mal, mais on verrait que de l'argent, oui, il y en a, pour satisfaire les besoins et même pour créer les emplois nécessaires.
Alors justement, Pascal Lemanac, aujourd'hui, avec ces nouveaux pouvoirs dont disposeront les régions, ne pensez-vous pas que il fallait aller plus loin, notamment dans les politiques de l'emploi, parce que jusqu'à preuve du contraire, moi, quand je lis ce qui se passait avant au niveau des régions, la région, c'était, je crois, les transports et les lycées. Par contre, tout ce qui est route et tout ce qui est, par exemple, collège, c'était le département. Mais aujourd'hui, c'est quoi la nouvelle donne des nouvelles régions? En matière économique, c'est ça qui est c'est ça qui intéresse aussi ceux qui cherchent du travail, hein, c'est à savoir quelles sont les formations, quelles sont les grandes entreprises, quelles sont celles qui ont du potentiel pour embaucher et celles qui méritent d'être aidées et celles qui ne le méritent pas. Est-ce qu'aujourd'hui les régions vont avoir ce pouvoir pour imposer une certaine politique en matière d'emploi?
Est-ce que la région va avoir un pouvoir? Est-ce que l'État a un pouvoir? J'allais dire, oui, bien sûr qu'ils ont un pouvoir. Ils ont un pouvoir. Mais ce n'est pas dans leur politique. Et c'est là-dessus que j'insiste. Ce n'est pas une question de place. Aujourd'hui, on est dans une société où on nous explique, où ces politiciens, qui sont les mêmes, qu'ils soient en région Normandie, ou en région Pas-de-Calais, ou à Paris, ou au niveau de l'État, ce sont les mêmes partis politiques avec les mêmes idées. La gauche, la droite et l'extrême droite sont pour un programme, justement, où la population devra se serrer la ceinture. Et encore plus demain, le patronat réclame, exige toujours plus d'argent. Eh bien, tous ces politiciens satisferont les besoins du grand patronat. Vous savez, quand il y a eu la crise en 2009, d'un seul coup, quand les banques, bien sûr d'abord aux États-Unis, mais aussi en France, du jour au lendemain, ça a été une catastrophe. Ils ne savaient plus du tout où aller leur économie. Alors là, les milliards, les dizaines, les centaines de milliards, ils les ont trouvés pour justement les donner aux banquiers. Eh bien, ces milliards, ils sont venus d'où? De notre poche.
Oui.
On explique aujourd'hui la dette. Vous vous rendez compte, la dette est insupportable. Bah, bien sûr, la dette. La dette a été donnée directement aux banquiers. Et on demande à la population de se serrer la ceinture. Et vous verrez qu'au niveau de la région, la première chose qu'ils feront, il faudra faire des économies sur tout. Ils feront des économies sur tout. Mais ça n'empêche pas, justement, comme je disais au départ, le fait que on donne toujours plus d'argent au patronat. Mais oui, bien sûr, il faut. Lorsqu'on, dans notre programme, nous, on parle que, évidemment, dans la situation pour lutter contre le chômage, il faudra imposer l'interdiction des licenciements et également la répartition du travail entre tous pour que tout le monde ait du boulot. Mais on dit aussi qu'il faudra le contrôle de la comptabilité des entreprises au niveau de la région et de l'État. Et vous verrez, l'argent, il existe, l'argent.
Ouais, non, mais en plus, où va l'argent?
Où va l'argent?
Oui, c'est surtout ça. Voilà. Les fameux transferts.
Là, pour intervenir en Syrie, là, on trouve des centaines de millions. Vous savez, une intervention militaire, ça coûte très cher.
Très, très cher.
Mais en plus, c'est pour lutter contre Daesh. Évidemment, Daesh va pas attendre les bombes. C'est la population syrienne qui va se retrouver encore dans une situation encore plus difficile. Voilà, c'est la situation qu'on vit aujourd'hui.
Pascal Le Manac, ce qui est important aujourd'hui, c'est la position de votre parti, de Lutte ouvrière. C'est vrai qu'il y avait quand même, une icône qui nous a tous marqué, c'était Arlette Laguiller. C'est difficile de reprendre le flambeau après une telle personnalité.
Vous savez, bien sûr que Arlette a marqué, et à juste titre, bon nombre de travailleurs.
Qui réalisaient des scores exceptionnels quand même.
Qui réalisaient des bons scores, voilà. Évidemment. Mais Arlette continue toujours de militer.
D'accord.
Bon, elle n'est plus porte-parole nationale. Voilà, elle a vieilli comme nous tous. Elle continue de militer. Mais vous savez, nos idées, justement, c'est pas une question de personnalité. On ne croit pas du tout, nous, comme dirait la chanson de l'International, on ne croit pas au sauveur suprême. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que le monde du travail, il est écrasé. Et que pour l'instant, c'est vrai, il n'y a pas de très grande réaction. Mais nous savons qu'à un moment donné, le gouvernement fera la loi de trop, fera le décret de trop, ou le patronat fera le licenciement de trop, et qu'il y aura des réactions. Et lorsque, vous savez, les travailleurs se battent, eh bien, il y a une dynamique qui se crée, et que, oui, ça peut aller le plus loin possible, et que justement, nous, on est persuadés que la classe ouvrière, vu sa position dans la société, vu l'ensemble du monde du travail, un jour il se battra. Quand? Je ne le sais pas. Mais il se battra. Et à ce moment-là, oui, il faudra aller au maximum, imposer nos revendications, mais je voulais dire, nous, notre projet, c'est même de changer de société, mettre à mal le capitalisme.
Est-ce que justement, d'où la continuité de ma question, est-ce que le capitalisme, dans sa configuration actuelle, est à bout de souffle et qu'il ne trouve pas de solution à proposer pour un monde meilleur. Vous savez, hein, quand vous êtes dans un système, vous tirez, puis à un moment donné, ça y est, vous avez atteint le mur infranchissable.
Parce que
que faudra-t-il faire à ce moment-là?
En tout cas, le capitalisme, oui, il est à mal parce que ce qu'on voit aujourd'hui, qu'on soit en Europe, c'est les idées réactionnaires qui sont mises en avant. Les idées nationalisme, de protectionnisme. Vous avez vu les scores de l'extrême droite, mais un peu partout dans tous les pays d'Europe.
Ouais.
Quand on voit en Afrique l'ethnisme, les conflits militaires, les conflits de le terrorisme qui se développe, parce qu'on parle de Daesh, mais vous savez très bien qu'en Afrique, il y a aussi du terrorisme. Toutes ces idées réactionnaires au nom de soi-disant d'idées religieuses, ce n'est pas vrai. Ce sont des luttes pour le pouvoir, des luttes pour l'argent. Vous savez, la religion, les dirigeants de Daesh, ils en ont rien à faire de leur religion. Ce qui les intéresse, c'est le pouvoir sur le pétrole. C'est ça. Et tous ces conflits qui sont de plus en plus nombreux partout dans le monde, bah oui,
c'est à cause des sous-sols qui sont riches en matières premières.
Bien sûr, c'est la soif d'argent, la soif de pouvoir. Mais c'est vrai pour tous les dirigeants politiques. C'est toujours plus, toujours plus. Eh ben oui, le capitalisme, qui a pourtant, peut-être, il y a une centaine d'années, fait en sorte qu'il y avait une amélioration des conditions de vie, aujourd'hui, il pourrit sur place, le capitalisme. Alors, est-ce qu'on arrivera demain à le mettre à bas et à faire en sorte de mettre en place une société que moi j'appelle réellement communiste, une société fraternelle de liberté où la population...
Plus juste.
Plus juste. Hein. Ouais. Voilà nos idées. Je suis persuadé qu'on y arrivera. Quand, je sais pas. Mais oui, c'est ça, l'avenir de l'humanité. C'est pas la réaction, l'avenir de l'humanité.
Justement, avant de marquer une nouvelle pause, Pascal Lemanac, je voudrais connaître un petit peu votre point de vue depuis le début de cette campagne, je le rappelle, campagne très morose. Est-ce que vous avez fait les marchés, des salles, quelle a été la réaction de ceux qui viennent à vos réunions, à vos meetings?
Oui, évidemment, vous savez, on est en campagne, mais j'allais dire, nous les militants de lutte ouvrière, on est en campagne toute l'année, on est des militants politiques, on milite dans notre entreprise, dans notre quartier, sur les marchés. Oui, les gens, lorsqu'on discute avec le monde du travail, avec les salariés, les chômeurs, les retraités, les gens sont conscients quand même que, oui, ça va pas, qu'il y en a ras-le-bol de ces politiciens. Malheureusement, certains nous disent, moi maintenant, je vais m'abstenir, parce que la politique, voilà, que ce soit la gauche ou la droite, c'est la même chose, je m'abstiens, à tort, parce qu'on nous donne la possibilité de voter au premier tour. Eh bien, on peut utiliser le bulletin de vote. Même si, évidemment, le bulletin de vote, et on est les seuls à le dire, c'est pas ça qui changera la situation, mais au moins, on peut dire ce qu'on pense. On peut marquer notre camp. Et on trouve, évidemment, des travailleurs qui se disent, bon, ben voilà, la gauche, la droite, c'est la même chose. Il reste le Front National. Eh bien, ils font une erreur, mais vraiment dramatique. Le Front National, c'est un parti anti-ouvrier, anti-immigré. Il sera du côté du grand patronat. Vous avez entendu en ce moment Marine Le Pen ? Elle parle plus de l'euro. C'est terminé.
Oui, il y a même un conflit avec Pierre Gattaz qui l'accuse d'avoir un programme économique d'extrême gauche.
Oui, mais Gattaz, vous savez, Gattaz, c'est quand même un patron, donc voilà, ce qu'il dit, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux dire, c'est que le Front National a fait pendant des années de la démagogie sur les salaires, sur les retraites. En soi-disant, le Front National était avec les travailleurs. C'est un mensonge. Et on le voit même aujourd'hui. Aujourd'hui, il espère de trouver une certaine respectabilité par rapport à la droite pour aller à la Montjoie, comme les autres. Et vous verrez, je vois les candidats du Front National. Ils sortent pas du monde ouvrier. Mmh. Alors là, je vais vous dire, ils sortent pas de ce monde-là. Ils parlent soi-disant du monde ouvrier, ils le connaissent pas. Eh bien, ça sera des politiciens qui iront à la Montjoie, comme les autres. Mais en plus, par rapport aux autres, c'est un mouvement politique qui a toujours voulu diviser les travailleurs, d'un côté les Français, d'un côté les immigrés. Eh bien, il ne faut pas tomber dans ce piège. On a tous les mêmes intérêts en tant que travailleurs. Je le répète, quelle que soit notre couleur de peau, notre nationalité, notre religion, on travaille ensemble et bien souvent pour le même patron.
Oui. Merci Pascal Lemanac. Une deuxième pause avant la suite et la fin de cette émission consacrée aux élections régionales. Dernière partie de cette émission spéciale élections régionales des 6 et 13 décembre prochains. Nous recevons aujourd'hui Pascal Lemanac, tête de liste pour lutte ouvrière sur la région de la Normandie, ce qu'on appelle la Normandie réunifiée, puisque ça a été la décision du gouvernement. Alors Pascal Lemanac, il y a maintenant un premier et un deuxième tour. Alors on a toujours tendance à faire des calculs pour politiciens. Quelle est aujourd'hui la position de lutte ouvrière, d'abord par rapport à ce premier tour, la mobilisation notamment, parce que je pense que aujourd'hui le citoyen français délaisse un petit peu les élections, puisqu'ils vous disent oh, droite ou gauche c'est toujours pareil, donc ben, autant ne pas aller voter. Et pourtant, le vote est important quand on a la chance de mettre un bulletin dans une urne.
Oui, bien sûr. Alors vous avez bien fait de préciser le français. puisque le droit de vote pour les immigrés, promesse toujours non tenue depuis 1981.
Et qui ne sera pas tenue cette fois-ci encore.
Qui ne sera jamais tenue. C'est une promesse, comme quoi les politiciens, ils peuvent faire des promesses, et une fois qu'ils sont élus, eh bien, ils peuvent les mettre directement à la corbeille. En tout cas, oui, il y a un premier tour. Et on se présente dans ces élections, justement, pour permettre à ceux qui sont écœurés par la politique du gouvernement, à ceux qui sont révoltés par la politique du patronat, de pouvoir l'exprimer clairement en votant Lutte ouvrière. Lutte ouvrière, qui est le seul parti à se présenter dans ces élections, qui est complètement dans le camp des travailleurs. Au point qu'on n'a pas voulu faire d'alliance électorale avec les déçus du Parti socialiste, qui ont aidé hier Hollande à arriver au pouvoir, et qui aideront peut-être demain, meilleur Rossignol, à rester à la tête de la région. Donc on s'est présenté seul pour avoir une politique claire.
Ce n'est pas acquis, parce que les dernières études montrent qu'au niveau de la région de Normandie, ça va être très très serré. Ça va jouer sur le fil du rasoir. Hein.
Oui, ça sera très très serré. Donc voilà le premier tour pour nous, on se présente pour défendre nos idées. Pour le deuxième tour, vous savez, on vote en général contre machin, mais souvent pas pour machin. Mmh. Et donc nous, je vais vous dire sincèrement, la gauche, elle est responsable aujourd'hui de la situation catastrophique que l'on vit. La droite, qui était hier au gouvernement, avait fait la même politique. Vous savez, Sarkozy et Hollande, on n'a pas vu la différence. Je rappelle quand même qu'en 2012, on a été les seuls, au deuxième tour, à dire qu'entre Hollande et Sarkozy, on ne choisirait pas. On a été les seuls. En expliquant que Hollande y mènerait la même politique que Sarkozy, parce que ce sont des serviteurs serviles du grand patronat. Eh bien oui, on peut le dire aujourd'hui, Hollande a mené la même politique que Sarkozy, et même un cran au-dessus. Et donc, voilà, au deuxième tour, les sondages en Normandie montrent que le Parti socialiste, la droite et le Front national seraient un petit peu au coude à coude.
Oui, on va dire, on appelle ça un mouchoir de poche.
Dans un mouchoir de poche.
Ouais.
Eh bien nous, en tout cas moi, je peux vous dire, je voterai au deuxième tour. Je voterai Lutte ouvrière au deuxième tour. Dans mon bulletin, dans mon enveloppe, il y aura marqué Lutte ouvrière, faire entendre le camp des travailleurs. Voilà ma position pour le deuxième tour.
Voilà, en gros, toujours dans la protestation.
Dans la protestation, mais surtout qu'entre la peste, le choléra, et maintenant le troisième larron qu'on retrouve au deuxième tour, eh ben non, je ne vais pas choisir la peste contre le choléra. C'est hors de question. Oui, ils sont... Vous savez, ce sont des politiciens qui s'entendent finalement relativement bien. Devant les caméras, on peut s'engueuler, mais je vois qu'au niveau de l'unité nationale, par exemple, hein, faire en sorte que les centaines de milliers de migrants qui sont aux portes de l'Europe, qu'on parque dans des camps, eh bien oui, là ils sont tous d'accord, tous d'accord. Eh bien, dans une société où on voit des milliardaires passer à la télévision, Monsieur Dassault, qui gagne des milliards grâce à la guerre, c'est son métier de vendre des armes, eh bien ce Monsieur Dassault, il est reçu sur tous les plateaux télévisés, il est... Eh bien oui, eh bien moi je suis pour que ces gens qui ont des milliards, on prenne sur leur fortune personnelle même. Je parlais des les 10 premières fortunes de France qui ont 180 milliards. Vous pensez qu'ils ont besoin de 180 milliards pour vivre correctement?
Vous mangez la même baguette que eux mangent aussi. Hein.
Tout à fait.
Oui.
Eh bien, moi, je suis pour que cet argent qu'ils ont gagné sur la sueur des autres, eh bien, on leur prenne une grande partie de cet argent-là. Et que cet argent-là, oui, il appartient à l'ensemble de la population. Et oui, on pourrait faire en sorte, mais très facilement, vous savez, on peut faire en sorte que tout le monde vive correctement. Je parlais au niveau de la région tout à l'heure, et au niveau de l'État, des subventions, les CICE. Vous voyez, les 40 milliards, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec les 40 milliards? Tous les hivers, on nous dit, il manque 1 million de logements en France. Eh bien, avec les 40 milliards, on pourrait construire les 1 million de logements qui manquent à prix coûtant, faire en sorte que ça donnerait de l'emploi à tous les gens qui construiraient ces bâtiments et des logements pas chers, abordables par tout le monde. Oui, il y a des problèmes dans le transport, il y a des problèmes dans la santé, il y a des problèmes partout. Il faut créer des emplois. On a l'argent pour créer les emplois. C'est un choix. Soit on le donne au patronat, soit on s'en sert pour créer des emplois utiles à l'ensemble de la population. Voilà, là, il y a des choix politiques. Eh bien, au deuxième tour, personne n'est d'accord avec ces choix politiques.
Comment, puisque tout à l'heure, je vous avais posé la question de votre travail de militantisme sur le terrain, quelle est la réaction du monde ouvrier avec lequel vous discutez au quotidien par rapport à ces élections? Qu'est-ce qu'ils vous disent concrètement?
Voilà, il y a la première chose qu'ils disent en général, il y a un dégoût de la politique. Dégoût par rapport au fait qu'ils font des promesses et que rien n'est appliqué. Par rapport, vous savez, à toutes les affaires, les Cahuzac, les gens de pouvoir, les politiciens qui sont mettent plein les poches, qui ne payent pas leurs impôts. Vous savez, on a eu un ministre qui a duré 3 jours parce qu'il ne payait pas ses impôts.
Phobie de l'administration. Ça, j'ai jamais entendu ça.
On voit Monsieur Le Pen, ça a fait pas tellement la une, je trouve, des journaux, qui aurait de l'or de planquer en Suisse. Il vient d'où cet or? Du ciel? Mais regardez, il y a un dégoût du monde politicien. Et c'est ça aussi un problème. Ce qui fait en sorte que, oui, l'abstentionnisme aussi augmente. Parce que, pour les gens, la gauche, la droite, mais c'est la même chose. On voit pas la différence. À quoi ça sert de voter? Eh bien, nous, on leur répond en disant, oui, c'est vrai, vous avez raison. Le bulletin de vote ne changera pas la vie. On peut seulement s'exprimer. Et c'est pour ça que voter pour les listes lutte ouvrière, au moins c'est une façon de dire, il faut que ça change, il faut que ça change. Nous, on fait pas la promesse en disant, votez pour moi et ça ira mieux demain. Pas du tout. Nos revendications du monde du travail, il faudra les imposer. On n'a pas le choix. Vous savez, quand le mouvement ouvrier se bat, oui, la société, elle avance. Quand le mouvement ouvrier, comme aujourd'hui, recule, c'est toute la société qui recule. Eh bien, oui, il faudra se battre si on veut que ça change. On n'a pas d'autre choix possible. On ne peut pas faire confiance à des politiciens de gauche, de droite, d'extrême droite, et j'allais dire même parfois de la gauche, qui ont un discours radical, mais qui ne s'appuie pas sur le monde du travail, car il n'y a que la masse, le nombre qu'on est. On est des millions dans cette société-là, on nous demande seulement de mettre un papier dans l'urne. Eh bien, nous, on dit, nous sommes des millions, prenons notre sort en main et imposons nos revendications.
Pascal Le Manac, il nous reste quelques minutes. J'aimerais bien que vous me parliez de votre liste, ou plutôt de vos listes, parce que vous êtes présent sur l'ensemble des départements. Donc, vous êtes la tête de liste pour l'ensemble. Quels sont les autres candidats qui sont un petit peu vos porte-voix pour cette élection?
Bien sûr. Vous savez, il y a la région, mais il y a des têtes de liste départementales.
C'est ça.
Donc, des têtes de liste sur les 5 départements que constitue la Normandie. Eh bien, vous verrez que les têtes de liste sont en général des femmes. Il y a plus de femmes que d'hommes. Ce sont tous des salariés qui font partie du monde du travail. Il y a des têtes de liste qui sont Christophe Garcia dans la Manche, il est postier.
C'est ce que je vois.
Voilà. Dans l'Eure, Mélanie Perrault est enseignante. Pierre Kazovic dans le Calvados est professeur. Et Charlotte Séchet dans l'Orne est enseignante également. Vous voyez?
Et
Valérie Foisset, pardon, oui, pour la Seine-Maritime, oui. J'allais oublier, bien sûr. Valérie Foisset, qui est tête de liste départementale pour la Seine-Maritime. Et elle.
Elle est aide-soignante.
Aide-soignante au CHU de Rouen.
D'accord.
Vous voyez, c'est des listes de. Et l'ensemble de nos listes sont constituées de salariés, de chômeurs, de retraités. Voilà, c'est une liste qui est le reflet de la société dans laquelle on vit, c'est-à-dire que ce sont des salariés, comme je répète tout à l'heure, 83% des gens, la population, sont des salariés, ce ne sont pas des patrons, c'est pas ceux qui passent à la télévision tous les jours, non, ce ne sont pas les grands patrons, ce sont des gens, voilà, qui vivent la situation que l'on vit, les difficultés que tout le monde rencontre, et de plus en plus. Voilà, c'est une liste qui représente le camp des travailleurs.
Un dernier mot pour finir, on va dire le message que vous voulez passer à travers votre passage ici chez nous, pardon, aux électeurs, aux électrices qui se rendront dimanche sur les...
Oui, bien sûr.
Dans les bureaux de vote, pardon.
Je dirais aux électeurs et aux électrices, mais pas seulement. Comme je le répète, il y a bien des travailleurs en France qui n'ont pas le droit de vote parce qu'ils n'ont pas la carte d'identité qu'il faut pour pouvoir mettre un bulletin dans l'urne. Et pour moi, il n'y a aucune différence entre des travailleurs français ou des travailleurs qui n'ont pas la carte d'identité française et qui payent des impôts et qui travaillent comme moi à l'usine, par exemple. Mais pour revenir sur les élections du 6 décembre, le premier tour, je dirais justement aux électrices et aux électeurs, servez-vous de ce bulletin de vote pour vous exprimer, pour montrer votre colère. Et votre colère, elle ne doit pas aller vers les idées les plus réactionnaires, vers le Front National. Elle doit aller dans votre camp. Et bien dans ces élections, il n'y a que les listes lutte ouvrière qui justement disent que la situation, on peut la changer si nous, tous ensemble, les salariés, les chômeurs et les retraités, on se bat, comme en 68, par exemple, on se bat pour nos revendications. Il n'y aura pas de changement, sinon, c'est évident que la situation, elle s'empirera pour nous tous. C'est évident. Donc, oui, discutons-en, ce n'est pas simple, mais discutons-en et montrons le 6 décembre, en votant pour les listes de lutte ouvrière, que le monde du travail n'accepte pas la situation présente.
Pascal Lemanac, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je le rappelle, vous êtes tête de liste pour lutte ouvrière pour la région de la Normandie des 6 et 13 décembre prochains.
Je vous remercie et je remercie l'ensemble des auditeurs d'avoir écouté cette émission. Merci.